Non.
Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Canu, la radio rebelle, il est l'heure du Canu Info pour ce jeudi 8 septembre. Ce soir nous allons parler avec Laurent de plein de choses, on parlera d'élections par exemple en Palestine, aux États-Unis d'Amérique. Nous aurons quelques mots sur des affaires religieuses, sur des affaires d'extrême droite. On parlera de ce mur de 4 mètres de haut à Calais, de Microsoft, de nanoparticules. Mais c'est vrai que c'est la rentrée, hein, ça y est, cette fois on peut pas y échapper. Et il y a quand même des endroits où moi je me dis que j'aurais pas bien envie d'aller travailler. Alors le premier de la semaine quand même auquel on pense, c'est à France 2. Vous avez peut-être lu, je l'espère, ce papier dans le Canard Enchaîné. Depuis ça a fait beaucoup de bruit, ça en avait même fait avant. On apprend donc que l'équipe de monsieur Nicolas Sarkozy a conditionné la venue de l'ex-président le 15 septembre prochain pour la première de l'émission politique. C'est une émission qui est censée être la nouvelle version des paroles et des actes, émission politique de Naguère. Et que donc cette venue était conditionnée au report de l'enquête d'envoyé spécial sur le financement de la campagne UMP de 2012. Un report espéré après la primaire de la droite, c'est-à-dire après le 27 novembre. Alors pour une émission d'envoyé spécial prévue le 29 septembre, ça tombait mal, hein, ce report. Élise Lucet n'a pas bien vécu, puisque Michel Field avait pris donc cette décision de ne pas diffuser, de ne pas gêner les Républicains pendant leur primaire. Mais Michel Field rattrapé par l'actualité avec l'affaire Big Malion qui est remis dans les gros titres de la presse. Michel Field demande aux équipes d'envoyé spécial de réaliser 26 minutes pour le diffuser ce soir après le 20h. La réponse a été non. Va te faire voir, Michel. Alors finalement, un compromis a été trouvé ce soir dans le journal de David Pujadas. va avoir lieu une diffusion d'un extrait de l'interview de Franck Attal, un ex-dirigeant de Big Malion, qui est au cœur de cette enquête d'envoyé spécial. Ça commence bien à la rentrée hein, pour France 2. Alors, on sait que ça fait un moment qu'à France Télévisions, c'est pas terrible au niveau des rédactions. Et ben voilà, ça continue. Un autre endroit dans les médias où j'aimerais pas bien travailler personnellement, c'est pour le groupe Bolloré. Je sais pas, Laurent, ce que t'en penses. Je te vois bien travailler.
À Canal Plus.
Ouais, à fond. Alors, c'est la rentrée aussi, c'est plutôt nettoyage de rentrée chez Bolloré. Alors, d'abord, c'est tout plein de nouveaux noms pour les chaînes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le capitalisme se renouvelle assez peu finalement. Alors, bon, iTélé va prendre le nom bientôt de CNews. Je sais pas si ça va améliorer le rapport à la concurrence. Enfin bon, l'équipe 21, et oui, il faut se souvenir que c'est au groupe Bolloré aussi, devient l'équipe, tout court, hein, l'équipe. Mais cette rentrée à l'équipe, ça annonce difficile, puisqu'il y a un plan de départ volontaire. Donc, c'est pour ça qu'il dit, bouf, il travaillait pas terrible. Et puis, on a les jeux de passe-passe. Alors, D8 va devenir C8, D17, C-Star. Il faut quand même se souvenir que en 2005, à la création de D8, c'est la propriété du groupe Bolloré et la chaîne s'appelle Direct 8. Et puis, en 2012, c'est revendu donc à Canal+, qu'il transforme en D8. Et puis, comme c'est revenu du côté Bolloré, eh ben, ça s'appelle C8. Hein. Voyez un petit peu, vous avez suivi. Et alors, pour D17, c'est un peu la même idée, puisque ça fait pareil. Un petit jeu de ping-pong, ça s'appelait Direct Star à la création de 2010, ça a été rebaptisé D17 et ça s'appelle C-Star. Heureusement que c'est des chaînes qui ne nous intéressent pas trop, parce que sinon j'imagine qu'on s'y perdrait. Et puis cette semaine, un autre endroit où ben, bosser est devenu un truc au passé, c'est chez Alstom Transport. Hein. Lui, on a appris hier que l'usine de Belfort, qui emploie environ 500 personnes, va fermer en 2018. Les activités d'ingénierie et de production vont être transférées en Alsace. Il va rester, nous dit-on, une activité de maintenance. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a que 50 personnes environ qui travaillent sur ce secteur. Donc bon, ça ne va pas faire grand-chose. Alors, moi, ce que j'aime, c'est la méthode. J'ai donc appris que hier, tout a démarré à 13h. Les syndicats ont été convoqués par le directeur Monsieur Kourou. Les syndicats, les uns après les autres, ont été convoqués. Et puis, donc, on leur a annoncé cette grande nouvelle. Et puis, à partir de 14h, c'est les salariés qui ont été rassemblés par groupe de 40 à 50, apprend-on, dans la grande salle. Et tout ça, toutes les 30 minutes, vous voyez ? Le travail à la chaîne, hein, à l'usine, ça s'oublie pas dans l'industrie quand même. Bon, ça n'a pas été bien pris, hein, ça, tout le monde a trouvé ça plutôt assez déplacé, et puis même si on sait que sur le site ça allait pas très bien, c'est aussi le symbole de ce que c'est la mondialisation et les multinationales, puisque vous l'avez peut-être entendu, fin août Alstom a décroché un contrat mirifique aux États-Unis d'Amérique, plus de 2 milliards d'euros pour moderniser la ligne à grande vitesse reliant Washington à Boston. Donc on se dit, ah bah il y a des sous Alstom, oui, sauf qu'il n'y a plus des sous ici, alors on transfère ailleurs. Et puis Alstom s'est aussi accroché pour finalement nous dire que bah ils n'ont pas le choix, ils doivent fermer cette usine de Belfort. C'est qu'il y a un gros contrat qui leur a échappé face à une concurrence allemande, et que donc comme c'était surtout le site qui travaillait sur ce contrat jusqu'à présent, et ben il faut fermer. Voilà, donc c'est ça la mondialisation, hein, on se déplace d'un endroit à un autre. Et puis s'il y a des endroits où j'aime pas travailler, où j'aimerais pas travailler, il y en a d'autres où je me dis que si nous y vivions avec Laurent, nous serions continuellement pétards. Par exemple à Béziers, je te vois bien Laurent vivre à Béziers avec Monsieur Ménard, dont vous avez entendu hein, lundi matin sur LCI, il a expliqué qu'être français c'est aussi, comme le disait le général de Gaulle, être européen, blanc et catholique, bien sûr.
Donc là, tu n'es pas française Delphine, et je ne suis pas français.
Ouais. Enfin bon, réutiliser les paroles d'un autre, c'est toujours un petit peu embêtant.
Surtout que c'était dans des circonstances différentes, c'est et il n'y avait pas le racisme derrière, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas toujours glorieuses. Alors, mais bon.
Ouais, c'était pas toujours glorieux, ouais. Il a ici expliqué qu'il avait une classe du centre-ville près de chez lui, où 91% des enfants sont musulmans. Alors tout ça a fait réagir Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. On retrouve ses propos sur le site web d'Europe 1. Il explique, j'ai donc appris que je n'étais pas français puisque je suis blanc mais pas catholique. Je pense aussi à tous nos concitoyens d'outre-mer qui ne seraient donc pas français. Moi, je ne sais pas faire, mais Ménard, c'est lui reconnaître les musulmans. À une époque, on savait reconnaître les juifs. Et dit aussi, Ménard bat les records de l'ignominie et de la connerie. C'est un pétainiste qui nie les valeurs de la France et de la loi de 1905 sur la laïcité.
Ah bah oui, il aime pas cette loi. Ça, c'est
on n'avait pas connu la LICRA aussi engagée quand même, hein, il faut le reconnaître. Un autre endroit où j'aimerais pas vivre, c'est dans la ville de monsieur Eschlimann, Manuel. C'est la ville d'Anières-sur-Seine, hein, c'est dans la banlieue de Paris. J'ai laissé passer cette info absolument importante pour nous tous et pour nous toutes, parce que les bonnes idées comme ça, il faut quand même les relier, il faut le dire. Il a exposé une bien bonne idée dans le Figaro du 1er septembre, enfin sur le site du Figaro.fr du 1er septembre dernier. Il a décidé que pour la sécurité, il fallait utiliser des drones. Il fallait donc qu'il y ait des rondes qui se fassent avec des drones de surveillance. Il explique que la vidéoprotection, c'est plus ou moins généralisée, elle est utile et peut, dans une certaine mesure, remplacer la présence humaine. Son seul problème est son immobilité.
Voilà, les drones. Donc, il veut remplacer la présence humaine. Donc, du coup, il licencie tous les keufs. Bon, ceci dit, on peut...
Ah non, lui, il cumule.
Ah oui, ah, non, mais si,
attends, il a 65 remplacer... policiers municipaux.
Oui, mais ça va remplacer la présence humaine, justement, pour faire la surveillance. Il n'y aura plus besoin de ces flics-là. Il va mettre des drones de partout. Et après, bon, vous avez déjà vu les films de science-fiction, on est entièrement surveillé. Bah, c'est ce dont il rêve.
Alors, il dit, je suis surpris qu'aucun autre élu ou maire n'ait osé franchir le pas.
Ouais, alors il faut leur rappeler que sur, les drones, c'est des avions, hein, et qu'il y a des règles, hein, pour voler, et c'est très compliqué. S'il y a un accident et que ça vous tombe sur la gueule, je vous parle pas, parce que même un petit drone, vous mourrez, hein, quand il tombe d'une certaine hauteur.
Ouais, alors il y en a d'autres aussi qui rappellent que ça fait du bruit, un drone, et que plus, donc voilà. Peut-être que pour certaines situations, comme des manifestations, ça pourrait être utilisé, mais comme c'est rappelé dans l'article du Figaro, mais bon, quand vous êtes en train de dealer au coin de la rue, franchement, le drone, il y a une chance que vous l'entendiez un petit peu, enfin pour l'instant on en est là. Donc pour lui, en tout cas, ça résoudrait 95% des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de l'opposition municipale, par la voix du socialiste monsieur Pietrasanta, Sébastien. Il explique, je ne suis pas hostile à cette proposition. Il faut vivre avec son temps, tout va bien, à droite comme à gauche, moi je vous le dis, c'est magnifique. Et puis c'est tout.
D'accord.
Si on aurait pu dire aussi que Jean-Marc Royon a pris 8 mois de prison pour apologie du terrorisme, alors certains diraient que lui, il aurait peut-être dû fermer sa bouche. Il l'a ouvert, il est soutenu en tout cas par la Ligue des Droits de l'Homme qui dénonce la condamnation.
On peut dénoncer la condamnation, on peut constater l'imbécilité des propos de Royon. C'est un intello, c'est un mec qui écrit très bien, donc il a choisi ses mots, c'est une vraie volonté pour lui d'avoir dit ça comme ça, d'avoir fait cette provoque qui était à mon avis inutile. Et voilà, il l'a cherché, il méritait pas cette condamnation, bien évidemment, mais là il a passé pour un gros con en disant ce genre de choses. C'est dommage, parce que c'était quelqu'un qui a été important dans la lutte d'extrême gauche, la lutte armée, et aujourd'hui il décrédibilise tout ce qui a pu être dit et fait derrière par lui et ses copains. Alors ceci dit, ils n'étaient pas très crédibles, ils avaient été beaucoup attaqués, hein, parce qu'ils n'ont pas fait des trucs très clean. Mais bon, voilà, c'est quand même triste de voir ça. C'est un peu peut-être parce qu'il vieillit, il fait comme Renault, il devient vieux, sénile, con, débile, avec l'âge.
Oui, alors d'ailleurs, on a failli recevoir un mot de Renault pour tes propos de la semaine dernière, l'assimilant à Monsieur Fillon, et donc une amitié. Depuis, il a essayé de réagir en disant que non, mais c'est pas vrai, on l'avait mal compris, et que c'était une fausse polémique et qu'on avait voulu utiliser ses propos. Bon, écoute...
Depuis, il s'est fait tatouer le Christ dans le dos, donc...
Nous suivons l'affaire Renault, on est inquiet.
Il ne mérite que notre mépris. Nous allons poursuivre avec la suite de l'actualité palestinienne dont j'avais parlé dans le Kenya Info de la rentrée il y a 15 jours, puisqu'on avait appris qu'il y avait des élections municipales qui allaient être organisées. On avait eu la date d'ailleurs le 8 octobre. C'était une révolution, ça fait des années, ça doit être 2006 ou 2007, hein, la date des dernières élections, celle qui a été remportée notamment par le Hamas dans la bande de Gaza. Et voilà, ça faisait plaisir que le processus démocratique redémarre. On avait quand même pas mal de doutes. Et là, la mauvaise nouvelle est tombée, puisque c'était à travers la voix du président de la Cour suprême, Hicham Al-Atou, qui a confirmé donc ce que pensaient tous les pessimistes, hein, l'arrêt du processus. Alors c'est un arrêt qui peut être définitif ou provisoire. On n'a pas d'infos là-dessus. En tout cas, il y a un avocat qui s'appelle Nael Al-Hou qui a expliqué pourquoi la Cour suprême avait donné un avis. Bah, c'est parce que lui, il fait partie des gens qui avaient demandé justement un avis de la Cour suprême. Alors lui, il avait deux raisons pour ça. La première, c'est qu'il estime, comme certains, j'en avais parlé, que tant que Jérusalem-Est n'a pas le droit de voter pour les municipales, il n'y a pas d'élection organisée. Alors on rappelle, Jérusalem-Est, c'est la partie est de Jérusalem qui est donc réclamée, enfin, majoritairement habitée par des Palestiniens, qui est réclamée par la Palestine, par la Cisjordanie ou par l'autorité palestinienne, qui voudrait en faire la capitale d'un État palestinien. Et on sait que pour Israël, il n'y a qu'une seule partie dans la ville de Jérusalem, c'est tout Jérusalem, et, dont le but est de devenir la capitale de l'État juif. Pour l'instant, c'est Tel Aviv, c'est un peu compliqué, mais officieusement, la vraie capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Donc forcément, en ayant cette idée-là, ça ne pouvait pas marcher, les élections, c'est impossible pour l'instant d'organiser des élections dans cette partie qui est entièrement occupée par Israël. Et puis la deuxième excuse, c'est que lui, il dit que le processus électoral est pas clair, notamment dans la bande de Gaza. Lui, il estime, il prend notamment un exemple qui a été donné il y a quelques jours, puisqu'un tribunal contrôlé par le Hamas dans la bande de Gaza a annulé 5 listes du Fatah. Le Fatah, c'est le parti de Mahmoud Abbas, donc le président pas vraiment élu, hein, plus maintenant en tout cas, de l'autorité palestinienne, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'élection depuis moult années, que le mandat est terminé depuis longtemps, mais qu'à défaut d'élection, il est resté à son poste. Donc le Hamas a annulé ses 5 listes. C'est effectivement, ça laisse pas augurer une belle pluralité dans la bande de Gaza, mais c'était quand même, il fallait à mon avis quand même tenter le coup. Donc là, la Cour suprême de Cisjordanie, donc palestinienne, a décidé que c'était non et qu'il n'y aurait pas d'élection. Alors peut-être que c'est repoussé, 8 octobre, ça paraissait quand même un petit peu tôt pour organiser tout ça. Le Hamas a réagi, puisque c'est son porte-parole qui s'appelle Sami Abu Zuhri, un des porte-paroles, il y en a plein. Il a dit, je cite, « Nous rejetons la décision d'annuler les élections et nous appelons tout le monde à faire de même. » Donc voilà, ils essayent de mobiliser un petit peu les troupes pour demander à ce que ces élections aient lieu. Il faut savoir qu'ils ont quand même un énorme espoir, le Hamas, c'est de gagner partout et de prendre le pouvoir en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est un risque non négligeable pour l'autorité palestinienne. Quand on a appris ces élections, la prévision de l'organisation de ces élections, on s'est dit, ils jouent quand même avec le feu, puisque le Hamas est quand même très très fort. Et voilà, bon, bah, pour l'instant, on n'a pas d'écho. On avait parlé aussi de partis de gauche qui se sont réunis pour essayer de faire poids dans cette élection, pour remettre de la politique dans l'élection et non pas de la religion, hein, puisque le Hamas est porteur d'un projet social, certes, mais avant tout religieux. Et du coup, les partis de gauche, eux, ont essentiellement un projet social. Donc voilà, ces divisions palestiniennes sont à l'origine de l'arrêt provisoire, on l'espère, de ce processus électoral.
Alors d'autres élections, cette fois aux États-Unis d'Amérique, donc on nous parle beaucoup de Mme Clinton et de M. Trump, mais il y a d'autres candidats et il y a toujours les candidats écolos, et là c'est Jill Stein du Green Party.
C'est une dame, c'est ça?
Ouais, tout à fait, elle est créditée d'environ 5% des intentions de vote dans les derniers sondages. Il faut se souvenir qu'à l'élection présidentielle de 2012, elle a remporté 0,36% des voix.
Ouais, elle avait pas fait beaucoup, je pense qu'elle était pas très connue. Il faut dire que les écolos aux États-Unis, ils avaient été représentés pendant de nombreuses années par Raf Nader, hein, qui a été arrivé à récupérer quand même un petit pourcentage à force de combat, de se présenter chaque année. Du coup, je pense qu'elle elle n'était pas assez connue. Là, elle commence à se faire connaître. Il y a un espoir un peu que le bipartisme soit un petit peu atténué aux États-Unis.
Alors, si je vous parle d'elle cette semaine, c'est parce qu'elle est dans l'actualité aux États-Unis d'Amérique, puisque Jill Stein et son colistier Adja Mubarak faisaient l'objet mercredi d'un mandat d'arrêt.
Ah bah c'est bien parti.
Ils sont accusés de 2 infractions mineures pour avoir tagué un bulldozer et empiété sur une propriété privée. Alors, ils risquent tous les deux jusqu'à 30 jours de prison et une amende de 1 500 $. Alors, il s'était joint mardi à une manifestation organisée par des Amérindiens, excusez-moi, contre la construction d'un éléoduc de 1900 km dans le Dakota du Nord. C'est près d'une réserve Sioux. Un éléoduc menace des sites sacrés pour cette tribu. Bon, faut dire que Jill Stein, elle avait posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle, toute contente, à côté du bulldozer, hein, ce qui a peut-être aidé un petit peu à la repérer. Bon, en même temps, elle rappelle qu'en 2012, dans le cadre des manifestations contre le pipeline de Keystone, elle avait déjà été arrêtée. Et puis là, elle fait circuler sur les réseaux sociaux une affiche d'elle et de son colistier façon western avec écrit Pipeline Resister. Voilà. Donc, bon, elle en rigole, sauf que sur place, ça rigole pas. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'il y a des manifestations contre cet oléoduc. En août, il y a eu des arrestations massives et ça a même amené le 24 août dernier, Amnesty International a envoyé des observateurs sur place. C'est rare quand Amnesty se promène en observateur en Europe ou en Amérique du Nord, il faut le dire quand même. Là, ils ont été prendre note des attaques aux droits humains. Donc, c'est, voilà, je vous disais, c'est un moyen de parler d'elle. Alors, elle se présente contre... excusez-moi, alors, elle se bat contre les néolibéralismes et en fait, par là, elle se bat contre les démocrates qu'elle accuse de juste vouloir finalement faire du compromis avec le capitalisme. Elle se présente comme étant opposée à la corruption, à l'establishment, et donc elle propose, je suis allée me balader un peu sur son site internet, un Green New Deal pour relancer l'économie, mais d'une façon écolo, d'une façon verte, si vous voulez. Elle prône une économie plus juste, alors elle voudrait un salaire minimum de $15 de l'heure, et cela au niveau fédéral.
Oui, alors le $15, hein, ça tourne beaucoup aux États-Unis, hein, c'est réclamé voilà. Par pas mal, c'est déjà mis en place, hein, dans certains États, voilà, c'est une...
Mais ça reste quand même un sujet de bataille, ouais. Et de débat assez important aux États-Unis d'Amérique. Elle aimerait aussi que les multinationales payent leurs impôts. Elle voudrait mettre fin à la suprématie des banques. Se bat aux côtés des minorités. Par exemple, dans son programme, elle parle des violences policières contre les Noirs aux États-Unis. Elle veut un plus grand contrôle de la police. Et puis, elle a un paragraphe sur la liberté et l'égalité. Alors, elle veut développer les droits des femmes, protéger les personnes LGBT des discriminations. Elle veut que les autochtones soient reconnus dans leurs droits et dans leurs terres. Elle veut traiter la toxicomanie comme un problème de santé publique et non pas comme un problème criminel. Elle veut créer un parcours d'accueil à la citoyenneté pour les migrants. Elle veut protéger l'internet libre et elle veut légaliser la marijuana. Ça fait partie de son programme, mais souvent chez les écolos aux États-Unis. C'est vrai que les petits candidats, ils n'ont pas voix de presse, les médias les ignorent. La seule chance pour les petits candidats d'être dans les médias, c'est d'arriver à participer à un débat présidentiel, c'est-à-dire avec Madame Clinton et Monsieur Trump. Pour ça, il faudrait qu'il y ait 15% d'intention de vote dans les sondages. Et alors, il y en a un qui est pas loin, puisqu'il a 13%. C'est Monsieur Gary Johnson. Monsieur Gary Johnson, c'est un libertarien. Et il est sous les feux de la rampe. Il a trouvé un autre moyen d'y être, c'est en étant une grosse bêtise. Alors, s'il n'est pas dans les... Alors, d'abord, ça a commencé avec les réseaux sociaux qui lui ont répondu, et puis évidemment, les médias ont fini par relayer quand même la bourde. Il était l'invité de Mike Barnicle dans l'émission matinale Morning Joe, et le journaliste lui demande « Que feriez-vous si vous étiez élu à propos d'Alep ?» Et M. Johnson de lui répondre « C'est quoi Alep ?»
Ah, c'est bon.
Voilà. Le journaliste a même insisté en lui disant « Vous vous moquez de moi ?» Et l'autre lui a répondu « Non ».
Non mais c'est un libertarien, les libertariens, donc c'est l'extrême droite ultra-libérale, pas réactionnaire, hein, ultra-libérale, ça n'existe pas chez nous hein, quasiment, et effectivement ils veulent vivre tranquille chez eux, sans emmerder personne, sans qu'il n'y ait aucune loi. Hein. Donc t'es emmerdé par ton voisin, bah, tu te défends, tu le tabasses, il t'emmerde, mais il n'y a pas de justice, pas de loi. Pas... Donc Alep c'est loin, la Syrie c'est super loin, donc ça ne l'intéresse pas, effectivement il est centré sur le local lui.
Marc il aurait pu lui répondre du savon.
Oui c'est ça, mais ça se trouve il ne connaît pas non plus le savon d'Alep.
Voilà. Enfin en tout cas moi j'attends donc ce débat à 3 s'il arrivait à atteindre les 15% et donc à intéresser un petit peu les médias pour qu'on rigole un coup quoi.
Alors, on va parler un petit peu de religion maintenant. On va commencer avec un dernier, encore une petite info sur Barbarin. Vous savez, c'est le cardinal qui dirige le diocèse de Lyon. Et on a une nouvelle info qui est sortie, toujours au sujet des actes pédophiles du père Bernard Prenat, dont on a pas mal parlé, nous ici, puis un peu partout. Et en fait, c'est suite à la sortie d'un livre d'Isabelle de Golemin, qui est rédactrice en chef adjointe du quotidien La Croix, un journal catholique. Son livre sort aujourd'hui, s'appelle « Histoire d'un silence ». Et elle raconte, elle, dans une interview qu'elle a donnée à La Croix, au moment d'une interview donnée à La Croix, que le cardinal Barbarin a affirmé être au courant des pratiques du prêtre vers 2007-2008. Donc ça, c'est les faits officiels, 2007-2008, donc c'est tard quand même, tout ça. Et elle sort dans son livre, ben non, moi j'ai une preuve, comme quoi, en 2004, on était déjà au courant, elle, et donc les catholiques, et donc Barbarin, des affaires de pédophilie du prêtre Bernard Prenat. Elle explique qu'elle est en visite chez ses parents, qu'elle rencontre un vieux prêtre de Sainte-Foy-lès-Lyon, le père Alain Bois, qui est décédé depuis, et qu'il dit qu'il y a un gros dossier autour de Bernard Prenat au niveau du diocèse. Voilà, donc grosso modo, Barbarin était au courant. Il y a même des propos qu'elle rapporte aussi, comme quoi il serait au courant depuis 2002. Donc ça fait un petit moment. Alors, ce qu'elle redit finalement dans son bouquin, c'est que pendant 25 ans, l'église lyonnaise, mais comme les églises de partout dans le monde, si vous n'avez pas vu le film qui se passe à Boston, montrant un petit peu la même chose, voilà, vous avez une idée de ce qui peut se passer à Lyon. Grosso modo, pendant 25 ans, tout le monde s'est tu, tout le monde a fermé sa gueule. Aussi bien, comme elle l'explique, au sein du diocèse, mais aussi au sein des familles qui étaient attachées, qui étaient catholiques, donc attachées à la figure du prêtre. Donc même si on découvre qu'un prêtre est pédophile, eh ben, faut pas salir l'image du prêtre, ça va très loin quand on est religieux, quand on est croyant. On est prêt à accepter qu'un prêtre soit pédophile, parce que c'est un prêtre, et qu'il faut pas en parler. C'est tout ça qu'elle raconte finalement et qui met en avant ce qu'on connaît déjà. Mais là, elle le dit, elle l'affirme, elle a des preuves. Et ça relancera pas la machine judiciaire, malheureusement, qui a lâché Barbarin, qui sera donc pas poursuivi pour avoir protégé ce prêtre. Il y a des trucs qu'elle raconte. Elle dit que elle avait laissé tomber en 2004 quand elle avait appris que Prenat avait un gros dossier de pédophilie, parce qu'elle était persuadée, ce qu'elle raconte, qu'il était déjà arrêté, déjà en prison, vu toutes les infos qu'elle avait entendues sur lui. Or, en fait, non. À cette époque-là, il n'était pas en prison. Et quand elle en a parlé plus tard, elle a appris qu'il avait été nommé responsable de plein de paroisses. Donc, en fait, c'était l'inverse de ce qu'elle avait imaginé, dit-elle. Mais voilà, donc il était protégé. Et malheureusement, Barbarin n'ira pas croupir en tôle, ce qui lui aurait peut-être mis des idées en place plutôt que de protéger les prêtres pédophiles. Alors, bon, a priori, la justice a dit qu'il les protégeait pas. Bon, bref, j'ai pas fini avec.
Monsieur Barbarin, parce que je me suis dit que je pouvais enchaîner parce que
avec Gérard.
Oui, finalement, ça le concerne aussi. Alors, c'est l'association Le Point Commun, qui est une association de gauche qui promeut la défense des fondamentaux républicains, qui a adressé une lettre ouverte à Gérard Collomb, notre bon maire, concernant le vœu des échevins qui a lieu ce jeudi à Lyon. Alors, durant cette cérémonie religieuse, le maire de Lyon remet un écu d'or au cardinal de la ville, c'est-à-dire à Monsieur Barbarin, pour que la cité soit protégée. Alors, il y avait 16h50.
Ce genre de tradition religieuse, ça existe encore à Lyon?
Oui, 16h50, cérémonie, 17h, la messe, 18h35, la bénédiction au balcon de Fourvière. J'ai pas eu de photos, puisque...
Et alors, attends, l'écu, il est payé par les impôts des Lyonnais ou par
Ces situations
Collomb lui-même?
Ces situations ont beaucoup énervé Le Point Commun. Et au début, je m'étais dit, je vais vous prendre des extraits de leur communiqué de presse. Mais en fait, il est plutôt assez croustillant, il faut le dire. Donc, il a été publié le 6 septembre. Ils expliquent, en ces temps de rentrée, il est de coutume de clarifier un certain nombre de position politique. Dans cette optique, nous vous contactons afin d'avoir votre éclairage sur la participation d'élus de la République à la fête de la Nativité et au renouvellement des vœux des échevins. Nous connaissons votre récent engouement pour la marche et nous ne voudrions pas vous priver du plaisir de déambuler dans cette très belle ville. Mais nous craignons qu'à force de procession, vous usiez vos semelles. À l'approche d'échéances cruciales, préservez-vous pour les porte-à-porte à venir. Ah, j'ai dit que c'était croustillant. Il se moque un peu, ouais. Un petit peu. Le vœu aux échevins est une cérémonie au cours de laquelle vous remettez, en tant que maire de Lyon, un sou au cardinal Barbara afin que la ville soit sous la protection de la foi catholique. Cet acte vient donc illustrer symboliquement la soumission du pouvoir politique au pouvoir religieux. Après avoir été aboli avec la Révolution française, ni l'Empire ni la monarchie de Juillet n'osèrent le rétablir. En fait, il faudra attendre Vichy pour qu'il redevienne officiel. Pensez-vous que Lyon est blanche et catholique comme le maire de Béziers le laissait présager pour la France ? Nous préférons affirmer avec conviction que la France n'est pas la fille aînée de l'Église, elle est la fille aînée des Lumières. Nous, je poursuis un petit peu plus loin, la République ne reconnaît aucun culte, alors qui a donc bien pu vous inviter à cette cérémonie d'hommage religieux ? Comment pourriez-vous être partie prenante d'un rituel officié par l'archevêché ? Nous partageons avec vous le goût du folklore, mais pas celui de la bigoterie. Un attachement aux traditions de notre ville, mais pas au clientélisme électoral. La raison vous paraît-elle avoir suffisamment triomphé ces derniers temps que vous trouviez opportun de demander la bénédiction de la ville. N'avez-vous pas suffisamment confiance en votre dauphin, reconnu tout récemment, que vous estimez nécessaire de remettre la ville à l'intercession de la Vierge ? Nous sommes convaincus de votre maîtrise du destin dans notre ville et vous appelons à ne pas en douter en vous remettant à d'autres forces. Enfin, nous vous savons partisans d'une gestion raisonnable des deniers de l'État et comptons donc sur vous pour vous abstenir cette année d'offrir un écu d'or lors de la messe de Fourvière. Voilà leur message, qui est plutôt, je trouve, pas si mal écrit, il faut le dire. C'est une tradition de monsieur Gérard Collomb, depuis qu'il est à la ville de Lyon, de rencontrer les représentants religieux lors de cérémonies, et tout ça au nom, en tant que maire de Lyon. Parce que qu'il y a lui personnellement, c'est pas le problème. Par contre, qu'il le fasse en tant que représentant élu, ça, ça choque pas que nous, j'en suis plutôt contente.
Voilà, et puis dire qu'on demande la protection de Dieu, c'est-à-dire c'est une superstition, on sait qu'il n'est pas toujours rationnel dans ses choix, mais là il est carrément irrationnel dans sa pensée, ce qui est inquiétant pour un homme politique qui est censé gérer rationnellement une ville. C'est quand même la honte, Collomb, c'est pas la première fois qu'il fait honte aux habitants de Lyon et de la région, hein. Il a marché main dans la main avec le Macron, ce libéral de centre droit, on va dire, pour le situer politiquement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bien triste.
Il termine par « Monsieur le maire, nous serions ravis de vous rencontrer pour échanger davantage sur le patrimoine lyonnais et la manière de le faire vivre, sans remettre en cause la séparation des églises et de l'État, ni en faisant la promotion de la superstition. »
Ouais, c'est une vraie superstition pour le coup. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit là-dedans.
Alors on partait en Belgique.
Oui, ben, je vais aller en Belgique parce qu'il y a une petite polémique débat en ce moment. Alors, c'est une réaction. Donc, il y a eu un changement dans les programmes des écoles, comme chez nous, sur l'enseignement de la religion. Et ça a énervé les religions officielles, on va dire, en tout cas un certain nombre, puisqu'il y a une alliance chrétien-juif-musulman qui ont écrit une lettre pour demander à être reçus en urgence à Bruxelles pour discuter de la nouvelle place de l'enseignement religieux dans l'enseignement officiel. L'enseignement officiel, ça veut dire l'enseignement public. Comment ça, il y a de l'enseignement religieux dans l'enseignement public en Belgique ? Eh oui. Alors donc, c'est officiellement, c'est les communautés catholiques, protestantes, évangéliques, juives et musulmanes qui ont signé cette déclaration. Alors, il faut savoir que depuis la rentrée, peut-être revenir avant. Avant, il y avait 2 heures de cours de religion qui n'étaient pas forcément obligatoires. On pouvait faire aussi des cours de morale sans étiquette, mais donc ça datait de 1958. Mais ce système était très critiqué parce que du coup, on savait d'office comme les enfants s'inscrivaient finalement, s'ils étaient issus d'un milieu religieux ou pas. Donc c'était un petit peu dommage de marquer les élèves dès le début par ce choix-là. Il a été décidé dans cette réforme scolaire de faire que tout le monde ait accès à 1 heure de morale, de républicaine, ça s'appelle pas morale républicaine, mais de morale, de cours de morale. Et il y a une 2e heure où là, il y a un choix possible, mais qui sera plus inscrit nulle part, de choisir soit d'aller à un cours de religion, soit d'aller de faire de la philosophie. En fait, le cours de morale, ça s'appelle la philosophie. C'est plutôt axé sur la morale républicaine. C'est pas une république, pas républicaine, mais la morale démocratique, etc. Bon, bref, ça a pas plu du tout à ces religieux qui estiment que c'est pas normal, parce que il faut dire que suite à ce changement de procédé et de dispositif à la rentrée scolaire, il y a une fédération des associations de parents d'élèves qui s'appelle la FAPO, qui est une association laïque, donc contre la religion, qui n'est pas contre la religion chez les gens, mais qui est contre qu'elle soit présente à l'école, et qui a encouragé les écoles à ne pas faire les cours de religion. Du coup, il paraît qu'il y a des enfants qui, quand ils choisissent la cour de religion, se retrouvent en salle d'études. Donc voilà, ils ont un vrai combat d'émancipation du discours et de la propagande religieuse, et ils disent que c'est beaucoup mieux si les enfants ont des cours de philosophie, parce que ça permet de discuter de sujets de manière un peu plus libre. Et ben, c'est notamment l'action de ces parents d'élèves qui a beaucoup énervé les religieux et qui donc sont montés au créneau. Donc c'est une évolution plutôt positive du système éducatif belge, hein, qui sort la religion du système éducatif et qui laisse au sein des familles ou des associations. Il n'y a pas un asso, les enfants peuvent toujours aller pratiquer la religion de leurs parents, parce qu'on rappelle que c'est jamais un choix chez les enfants, hein, il faudrait que ça, on le rappelle, hein, c'est bien une obligation des parents qui imposent souvent la religion à leurs enfants. Malheureusement, les enfants ont très peu de liberté dans les systèmes éducatifs dans le monde. Mais bon, voilà, c'était quelque chose qui va plutôt dans le bon sens de l'émancipation religieuse, sans interdit, bien évidemment. Et ben, ça n'a pas plu religieux de tous bords.
En Turquie, nous avons appris enfin une bonne nouvelle. Alors, il faut se souvenir, Fazel Say, c'est un pianiste qui se produit partout dans le monde, avait été condamné en 2013 à 10 mois de prison avec sursis pour une série de commentaires sur le réseau social Twitter. Des tweets qui avaient été jugés injurieux envers les valeurs religieuses. Alors, certains de ces tweets que j'ai retrouvés disaient « Vous dites que des flots de vin coulent au paradis. Est-ce que le paradis est une taverne ?» Bon, je vous ai pas dit, il est athée, au fait. Hein, ouais, voilà.
C'est relativement mal vu en Turquie, quand même.
Il disait d'autres choses du style, vous dites qu'il y a au paradis deux houris pour chaque croyant. Est-ce que le paradis est un bordel? Les houris, c'est les vierges. D'autres trucs comme ça, il dit, tous les cons, la pègre, les bouffons et les voleurs sont aussi des halaïstes. Est-ce un paradoxe? Alors, suite à cette condamnation en 2013, la peine avait été confirmée en appel la même année, puis annulée en octobre 2015 par la Cour suprême d'appel au nom du droit à la liberté d'expression. La Cour qui avait renvoyé un procès devant le tribunal d'Istanbul, le premier qui l'avait condamné, et le tribunal d'Istanbul a hier pris une décision en confirmant la décision de la Cour suprême d'appel et a acquitté donc Fazel Say.
C'est presque surprenant vu l'état actuel de la Turquie et du retour du religieux. C'est bientôt un régime religieux, la Turquie. C'est assez surprenant, alors qu'il y a eu du ménage fait chez les juges par le président presque dictateur, M. Erdogan. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Ouais. Il reste quelques juges qui essayent de faire respecter le droit.
Ouais, par contre, pour d'autres, c'est plus compliqué, puisque Asli Erdogan, qui est une auteure, une romancière, elle avait été arrêtée dans la nuit du 17 août avec 20 autres membres de la rédaction du journal d'opposition Özgün Güden. Elle avait été raflée, comme on dit, hein, en pleine nuit. Elle est accusée de propagande en faveur d'une organisation terroriste, appartenance à une organisation terroriste et incitation au désordre. Alors, il y a une pétition internationale, il y a eu du soutien international. Lundi, malheureusement, un tribunal a rejeté sa demande de remise en liberté. Elle reste donc en prison. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas quand son procès va avoir lieu. Aucune idée, voilà. Si vous voulez la lire dans le texte, son dernier roman est paru en 2013 chez Actes Sud. Ça s'appelle Le bâtiment de pierre et ça dénonce la torture et les conditions de détention en Turquie.
Eh bien, on va rester dans des choses assez proches, puisqu'on va parler de l'extrême droite maintenant, puisque la religion et l'extrême droite font quand même très bon ménage. D'ailleurs, ça, vous allez vous en rendre compte dans quelques minutes. On va commencer avec ceux qui collaborent avec l'extrême droite. On va parler de Jacques Sapir. Alors Jacques Sapir, on savait déjà qu'il était limite sur plein de domaines, notamment parce qu'il participe à un site qui s'appelle lescrises.fr, qui est un site confusionniste. Vous savez, ces sites qui sont pas ouvertement d'extrême droite, mais qui laisse apparaître la confusion. Notamment, ce site-là, il fait le soutien quasi systématique de Poutine. Alors, ils avaient beaucoup été mis en avant lors de la crise en Ukraine, où ils soutenaient les pro-russes et ils étaient contre la révolution de Maïdan. de manière très caricaturale, bien évidemment. Et donc, Jacques Sapir qui écrit toujours sur ce site, puisque ce site est aussi un site qui est contre l'euro et contre l'Europe. Donc, Jacques Sapir est invité par Marine Le Pen à l'université de rentrée du FN. Alors, il ne peut pas y aller. Donc, il a expliqué, bon, je ne peux pas y aller physiquement, mais je vous ai fait une vidéo. Donc, il a fait une vidéo pour Marine Le Pen où il explique pourquoi le Brexit est bien, etc. C'est sur la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Alors, il dit, mais je la soutiens pas, hein, mais enfin, on a encore le temps, hein, parce qu'il va pas jusqu'au bout, du coup, de ses propos. On sent bien qu'il est quand même super limite et qu'il est limite facho maintenant, puisque finalement, il a voulu lancer un mouvement à un moment qui allait de l'extrême droite à l'extrême gauche. Comment c'est possible ça? Eh ben oui, parce que tous ceux qui refusent l'Europe, qui refusent l'euro, se regroupent ensemble, tous ces souverainistes, puisque finalement, c'est ça dont il est question, c'est les nouvelles formes d'extrême droite, hein, les souverainismes en font partie. On a eu Chevènement qui était chauviniste et qui était soi-disant de gauche. Enfin, nous, on l'a jamais vu de gauche, hein, mais voilà, c'était soi-disant de gauche. Donc, il soutient ces gens-là. Il a été invité il y a pas longtemps. Il est venu voir, entre guillemets, son ami Nicolas Dupont-Aignan, hein, autre militant d'extrême droite souverainiste. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'il collabore avec des forces de régression sociale, des forces réactionnaires. Ben voilà, il continue. Donc, c'est Jacques Sapir qui va intervenir par vidéo au congrès du FN. C'est quand même tout ça, très triste tout ça. Et puis, alors l'extrême droite, on va parler de Lyon, un article qui est issu du site Rebellion, je le cite, hein, parce que je l'aurais pris à eux. Donc, il nous parle d'une église qu'on connaît bien, qui s'appelle l'église Saint-Bernard. Alors, dire ça, c'est une erreur de dire que c'est l'église Saint-Bernard. Ce n'est plus une église, hein, puisqu'elle a été désacralisée, cette église. Donc, c'est l'ancienne église Saint-Bernard. Je corrige mes propos, et d'ailleurs, le texte de Rebellion, il pourrait être corrigé aussi. L'ex-église Saint-Bernard est aujourd'hui l'affaire de toutes les convoitises. Alors, on sait qu'il y a un projet de Gérard Collomb, on en avait parlé, d'en faire une sorte de truc d'entreprise un peu branchouille dans le monde du numérique. J'ai pas tout compris, mais un truc, voilà, un peu bobo, d'entreprise bobo. Faut savoir que cette entreprise, cette ancienne église, elle menaçait de s'écrouler. Enfin, le solde dessous est pas stabilisé. Il y a des projets, hein, pour la restabiliser. Les budgets avaient déjà été votés, d'ailleurs. Donc ça ira, ça sera réglé rapidement. Et est arrivé, en concurrent de ce projet libéral économique de Gérard Collomb, les cathos. Alors, l'article de Rebellion parle surtout du projet et du traitement par Le Progrès. Alors, Le Progrès, c'est pas des grands journalistes, du coup, leur traitement est très biaisé et très pourri, soit involontairement parce qu'ils sont pas très bons, soit volontairement pour des raisons idéologiques. On a toujours des doutes là-dessus, hein, quand on lit des articles du Progrès, bien évidemment. Donc, en tout cas, il y a, sur cette église dite des Canus, des militants cathos d'extrême droite qui aimeraient la récupérer pour y installer la fraternité Saint-Pédis. Vous savez, Saint-Pédis, c'est les cathos intégristes, donc très proches du FN, notamment à Lyon, ils sont très très proches du Front National, ce qui nous rappelle, hein, que l'extrême droite religieuse est très présente dans les mouvements d'extrême droite traditionnels comme le Front National, hein, c'est un des piliers, on va dire, même si Marine Le Pen le cache un petit peu sous le tapis, ils sont bien toujours là et toujours présents, et pour preuve, ce projet est porté par quelqu'un qui s'appelle Nicole Hugon, donc qui a monté une association pour défendre cette ancienne église et la refaire vivre en tant qu'église pour les cathos intégristes. Donc elle a monté une asso pour ça, ils doivent être 15 dedans, hein, mais bon. Voilà, elle est proche de Marine Le Pen plutôt, puisqu'elle était membre du mouvement Bleu Marine. Elle a été notamment élue au comité central du Front National. Elle s'est présentée pour le parti d'extrême droite dans le 6e arrondissement, puis dans le 5e. Elle s'est présentée au départemental en Villefranche pour l'extrême droite aussi. Donc voilà, c'est pas quelqu'un d'innocent qui arrive et qui dit, parce qu'elle parle au nom du patrimoine des Lyonnais, qu'il faut garder cette église au nom du patrimoine. Elle a aucun sens, cette église, au nom du patrimoine. Elle a très peu, elle a pas vécu si longtemps que ça non plus en tant qu'église, vu l'état du bâtiment, vu qu'elle était mal construite et construite n'importe comment. Elle est désacralisée quand même depuis un certain nombre d'années. Et y installer cette fraternité Saint-Pédis, c'est pas anodin. Cette fraternité Saint-Pédis, hein, qui est proche de Civitas, le mouvement qui était très mobilisé, mouvement homophobe, hein, contre le mariage pour tous. Donc voilà, ils sont installés dans pas mal, à deux, trois endroits à Lyon, hein, notamment il y a un nouveau lieu de culte qui est de PH. Voilà, là, c'est l'idée, hein, c'est de finalement d'implanter l'extrême droite à la Croix-Rousse. On sait que la religion est peu implantée à la Croix-Rousse. Hein, il y a une paroisse qui est au milieu, qui est la Sainte-Polycarpe, je crois, avec un prêtre qui est plutôt progressiste, hein, puisque lui, il avait proposé que cette église devienne un musée, le musée des Canuts. Donc c'était quand même, bizarrement, lui, un religieux, il avait une proposition plus progressiste que elle, qui n'est pas religieuse, mais par contre, qui est militante d'extrême droite. Donc voilà, il y a plein d'autres projets possibles. Ça pourrait être un lieu plus ouvert que ce que propose non plus Colomb. Mais finalement, avec ce qu'elle dit, elle, je préfère le truc pourri de Colomb au truc de l'extrême droite religieuse. Enfin, il faut, voilà, on pourrait rêver d'un projet alternatif, comme ça aurait pu être le cas sur l'ancienne école des Beaux-Arts, que Colomb a refilé un truc aussi capitaliste. Mais ça, bon. C'est Colomb et il ne nous surprend pas du tout quand il fait ces choses-là.
Alors vous avez certainement entendu, mais M. Cazeneuve s'est prononcé pour une fermeture définitive la plus rapide possible de la jungle de Calais. Alors comment et quand ?
Alors comment, c'est simple, ils vont virer tout le monde, ils vont mettre les gens dehors à la rue. Et quand, bon, bah, c'est quand il aura le courage de le faire, ou qu'il n'y aura pas trop de journalistes pour voir les CRS virer des hommes, des femmes et des enfants qui vivent dans ce bidonville.
Alors, parallèlement à ça, le gouvernement de l'autre côté de la Manche a confirmé le financement du mur d'un kilomètre de long le long de la rocade à Calais. Un mur de 4 mètres de haut.
Ah, hein, oui. On manquait un peu de mur en France.
Ouais, alors c'est un mur anti-bruit et anti-intrusion.
C'est surtout anti-intrusion. Hein.
N'est-ce pas ? Qui est donc construit le long de la RN 216, construit de chaque côté de la route. En fait, il ne fait que prolonger, l'idée c'est qu'il fasse que prolonger la clôture qui existe déjà entre le port de Calais et le pont de Gravelines. Alors c'est un projet qui date du mois d'avril, hein. C'est pas non plus une découverte. Les travaux ont débuté cet été, au mois d'août. Au total, doivent durer 16 semaines. Monsieur Goodwill, le ministre de l'immigration de l'autre côté de la Manche, a confirmé que c'est bien la Grande-Bretagne qui allait payer ce mur. 2 700 000 euros hein, pour cette belle construction. C'est vrai qu'on n'a pas d'argent à mettre ailleurs, surtout. Alors, pour lui, de toute manière, il n'y a pas le choix. Les gens passent encore, rapporte les Guardian, ses propos. Nous avons mis des grilles. Maintenant, nous construisons un mur. Hein. Après, on ne sait pas bien jusqu'où il veut aller. Moi, ça, je ne sais pas. J'essaye d'imaginer, je ferme les yeux, je ne vois pas trop. Alors, ce qu'on sait, c'est que côté route, ça va être végétalisé. Vous voyez, pour que vous ne soyez pas heurté par ce mur,
que ça ne ressemble pas trop au mur entre Israël et la Palestine, par exemple. Hein, que ça...
Oui, enfin, au Mexique, enfin, tous ces murs, partout dans le monde. Alors, il y aura donc un système anti-franchissement, un système de vidéosurveillance, et puis un système d'éclairage, pour qu'on soit bien sûr que personne n'essaye de le franchir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est démontable.
Ah oui, c'est un jour où on devient progressiste, on l'enlèvera.
Exactement, t'as tout compris. Alors, moi j'ai lu dans la presse la réaction de Jean-Marc Puissosso, le président directeur général du port Boulogne-Calais, hein, qui c'est lui qui était à l'initiative de ce beau projet. Il l'a porté, il en est fier, et il explique que s'il n'y avait pas le démantèlement du bidonville dans les prochains mois, il demanderait au gouvernement français la réalisation totale du mur jusqu'à la 16. C'est-à-dire que lui veut tout boucler, quoi. Hein, voilà. Alors bon, heureusement, de l'autre côté de la Manche, ça émeut un peu les gens. Il y a une pétition qui a été lancée sur Internet. Ouais, et c'est pas juste pour des raisons financières hein, que les gens râlent, c'est que c'est pas très beau, encore une fois.
On va parler un petit peu de Microsoft, parce qu'aujourd'hui était assigné devant la justice Microsoft et l'éducation nationale, porté par un collectif d'associations qui s'appelle Edunaton. Alors c'est suite à l'accord qui avait été signé entre Microsoft et l'éducation nationale pour que Microsoft puisse faire l'éducation des bambins et leur apprendre que Microsoft c'est bien, Microsoft c'est beau, les logiciels Microsoft c'est bien, c'est inévitable, c'est incontournable, ce sont les seuls. Voilà, un peu c'est ça qui est reproché pour aller un petit peu vite. Donc un accord qui a été signé par Najat Vallaud-Belkacem, que dénonce donc ce collectif Edunaton. C'est des gens issus du monde du libre, hein. On retrouve des gens du Conseil National du Logiciel Libre, hein, qui organisent des libres parties, des choses comme ça, pour essayer de développer le monde du libre, de l'open source, enfin des choses un petit peu plus sympas que le monde fermé de Microsoft. Alors, dans le projet, hein, y a l'idée que dans l'éducation nationale, alors d'abord, ça coûte pas un rond. C'est pour ça que c'est bien. Parce que Microsoft va mettre de l'argent. Ils vont investir, effectivement. Former les cadres de l'éducation nationale et les enseignants, hein, aux outils Microsoft et les mettre à disposition aux élèves. Et comme ça, les enseignants parleront des logiciels Microsoft aux petits bambins qui, le jour où ils seront un peu plus grands et qu'ils auront besoin d'un traitement texte, demanderont le traitement texte Microsoft. C'est quand même la honte totale de la part de Najat Vallaud-Belkacem d'avoir accepté ce type de contrat. Donc il y a ce recours. Alors c'est pas le premier, il y avait déjà eu un recours gracieux, hein, pour demander que ça soit annulé, parce qu'ils estiment que c'est juridiquement très contestable, que ça soit d'ailleurs au regard du droit de la concurrence, des principes de la commande publique ou des dispositions du code des marchés publics. Alors ils disent que c'est pas un marché public parce que effectivement c'est gratuit ce qu'ils font. Enfin voilà, ils avaient demandé à pouvoir concourir et proposer aussi une solution libre. Alors la réponse de la ministre, ça a été qu'ils avaient lancé un appel d'offres, ils n'ont pas eu de réponse, sauf qu'en fait, Edunaton dit, bah, nous on n'a pas eu le cahier des charges, donc on ne pouvait pas répondre, on ne sait pas quoi répondre à ce soi-disant appel d'offres, donc on n'avait pas eu de cahier des charges. Voilà, ils sont soutenus, hein, Edunaton, par le SNES notamment, qui est le premier syndicat des professeurs du secondaire. Alors, dans l'idée de la réforme aussi, étaient apparues des choses que je trouve totalement aberrantes. C'est de permettre, dès cette année, il paraît, j'espère que ça ne sera pas fait, mais c'est le but, que tous les élèves de 5e soient équipés d'une tablette. Alors, soi-disant, c'est pour les aider à coder et tout ça. Une tablette, ça ne permet pas de coder, c'est pas fait pour ça. Hein, c'est un outil, c'est comme un téléphone portable géant, quoi. Et l'idée, c'est de généraliser et que d'ici 2018, tous les collégiens aient une tablette. On comprend aussi l'enjeu pour Microsoft de s'incruster là-dedans. C'est d'avoir le marché, parce que ça fait 3,3 millions d'élèves à équiper ces tablettes. Et pourtant, il y a des solutions alternatives. Alors, je ne sais pas quel serait le prix d'une tablette pour les élèves. J'imagine autour d'une centaine d'euros, ou peut-être un peu plus. Mais pourquoi pas développer des choses dans le monde du libre. On sait qu'il existe les petits ordinateurs qui s'appellent les Raspberry Pi, ou Pi, les Raspberry Pi. Ça vaut une trentaine d'euros sur le marché actuel. Il faut rajouter un clavier, un écran et une souris. Mais ça, si c'était fabriqué que pour l'éducation nationale, à très grande quantité, avec un système déjà préinstallé pour que ce soit facile à utiliser, eh ben c'est ce mini-ordinateur, on peut aller sur Internet, on peut faire plein de choses, et on peut aussi apprendre à coder, hein, puisqu'il y a tous les logiciels pour coder, c'est sous un logiciel libre, ça peut être un Raspbian par exemple, pour la version Debian sur Raspberry. Et eh bien bizarrement, non, Najat, ça lui parle pas, Raspberry, ça lui parle pas le monde du libre. Il y a un vrai choix idéologique dans tout ça. Alors, le PS et les gens au pouvoir, c'est pas la première fois qu'ils sont amoureux de Microsoft ou qu'ils sont influencés par Microsoft ou qu'il y a peut-être par derrière des pots de vin ou des choses comme ça. On peut tout imaginer quand on a un partenariat aussi aberrant qui est signé avec une des multinationales les plus fortes dans le domaine de l'informatique. Gérard Collomb avait fait la même chose à Lyon, hein. Alors que dans l'administration, il y a eu des efforts de fait pour développer le logiciel libre. On sait que il y a quelques années, les commissariats, moi j'avais été témoin, qui rentraient les infos sur du logiciel libre. Hein. Donc ça a commencé à s'implanter parce que ça coûte beaucoup moins cher. On a des inspecteurs de l'éducation nationale qui commencent à envoyer des fichiers en format libre. Donc ça commence à se développer. Et ben le ministre au-dessus, il essaye de faire l'inverse. C'est quand même très très triste. Alors, on n'a pas la réponse de ce qui va se passer devant la justice. Ils l'en ont peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Mais on espère quand même que ce partenariat il sera cassé pour laisser le monde du libre rentrer enfin dans l'éducation nationale, qui a un peu plus de liberté aussi dans le domaine de l'informatique. Un petit mot sur les nanoparticules. Alors vous avez peut-être vu et entendu, parce que ça a été pas mal médiatisé, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui démontre que les nanoparticules se retrouvent dans nos cerveaux. Alors c'est une étude sur un faible pourcentage de personnes, mais qui est scientifiquement quand même valable. C'est 37 individus britanniques et mexicains dans lesquels ils ont cherché dans le cerveau si on trouvait des nanoparticules. Ils ont trouvé des particules de magnétite qui sont non naturelles, qui sont pas celles qu'on trouve naturellement dans le cerveau, qui ont une forme différente et qui sont donc issues notamment a priori, peut-être en tout cas, de la pollution environnementale. Et ils sont allés jusqu'à dire que ça pouvait être en partie responsable du développement des maladies neurodégénératives telles que Alzheimer. Alors il y a des réactions, on a la docteure Valérie Lecureur de l'INSERM, de l'INSERM, qui a réagi en disant que c'était peut-être un peu rapide de dire ça. Moi j'aimerais en être sûr, tout ça. L'étude quand même de ces chercheurs britanniques est relativement fournie, elle montre bien qu'effectivement ces particules sont bien issues du milieu extérieur, elles passent la barrière qui protège le cerveau, cette fameuse barrière hémato-encéphalique qui est une sorte de membrane qui entoure le cerveau et qui empêche les éléments extérieurs de rentrer dans le cerveau. Ces nanoparticules rentrent dans le cerveau. Donc c'est plutôt inquiétant parce que là, ils ont regardé la magnétite, mais il y en a plein maintenant des nanoparticules. Donc il y a un vrai souci et une vraie préoccupation. Alors, justement, je voulais rappeler quand même où il y avait des nanoparticules et si vous voulez préserver votre santé et pas prendre trop de risques, vous pouvez éviter les produits. C'est très très facile d'éviter les produits avec des nanoparticules. Donc on en trouve principalement alors dans les cosmétiques, dans les rouges à lèvres, ça fait leur apparition il y a une dizaine d'années, parce que ça améliore leur forme, leur tenue, notamment sur les lèvres. Ça apparaît dans les crèmes hydratantes, certaines crèmes hydratantes et dans certains dentifrices. Ça apparaît, et c'est là où c'est le plus pointé du doigt, dans les crèmes solaires. Et vous couvrez votre bambine de crème solaire, il se rechoppe des nanoparticules. Alors, là, il y a un moyen simple, comme dans tous les trucs, de ne pas prendre de risque, c'est de prendre des produits bio. Alors bien sûr, les crèmes solaires bio sont pas toujours efficaces, elles laissent des traces blanches. Et c'est justement ça qui est important, c'est les traces blanches. Parce que, en fait, le principal inconvénient des crèmes solaires depuis de nombreuses années, c'est que les gens se plaignent que ça laisse des fois des traces un petit peu blanches. Oui, c'est parce que au lieu d'utiliser des nanoparticules, c'était des petites particules, mais pas sous forme nano, donc beaucoup plus grosses, notamment d'oxyde de zinc, qui empêche les UV d'attaquer, de toucher la peau et donc d'après d'attaquer les cellules. Et comme c'est pas très beau ces traces blanches, les principaux fabricants sont passés aux formes de nanoparticules qui gardent les mêmes propriétés de protection, mais qui ont aussi la propriété de rentrer à l'intérieur de la peau et donc d'être potentiellement dangereuse. Surtout qu'aucun de ces fabricants n'a jamais sorti d'études à grande échelle sérieuses, scientifiques, qui démontrent que c'est pas dangereux. Hein, puisqu'ils mettent des produits en circulation sans les tester. Alors on en retrouve, alors ça c'est les plus gros problèmes, c'est les plus gros risques en fait, puisque pour l'instant il n'y a pas de problème, les plus gros risques sont là-dedans. On en trouve dans les peintures, là les risques sont peut-être un petit peu moins importants. On en trouve, et là ça commence à être beaucoup plus grave, dans les aliments. Puisque, alors il y a par exemple l'oxyde de silice, une nanoparticule d'oxyde de silice qui s'appelle E551 et qu'on trouve donc dans plein de choses dont il faut améliorer les émulsions, les soupes, certains laits, le chocolat, les crèmes en poudre, les hamburgers, enfin plein de produits industriels. Là c'est pareil, le seul moyen d'y éviter, puisque c'est pas écrit sur l'emballage, c'est d'acheter des produits bio ou de pas acheter de produits transformés. Parce que dans les produits non transformés, il y a beaucoup moins de risques. Donc voilà. Alors il y a au moins 300 nano-aliments présents, répertoriés. Donc il y a un vrai potentiel de danger dans ces aliments-là. On en trouve dans les vêtements, c'est assez peu répandu, mais c'est les vêtements surtout de sport antitranspirants et les chaussettes antitranspirantes qui tuent tout ce qui est antibactérien en fait. Souvent c'est des nanoparticules d'argent, hein, qui ont, ou peut-être de cuivre, mais souvent d'argent, qui ont des propriétés antiseptiques et qui du coup limitent la transpiration. Ce qui sont mauvais dans la transpiration, hein, c'est tout ce qui est associé, les bactéries associées à cette transpiration. Sauf que là, il y a un vrai potentiel de danger de ces nanoparticules. Voilà, on en trouve aussi dans d'autres endroits. Alors les voitures en émettent beaucoup, hein, la combustion n'est pas très bonne, et surtout elles en émettent avec les pneus et les freins. Et c'est là où il y a un gros danger aussi dans la respiration, c'est que les voitures émettent beaucoup de nanoparticules. Enfin voilà, c'est peut-être un futur danger. On n'a pas beaucoup d'études sérieuses là-dessus qui démontrent des réels dangers, à part cette étude-là qui commence, c'est pas la première, qui commence à laisser entrevoir des pistes de danger. Et on n'en a pas beaucoup parce que tous les fabricants de nanoparticules ne font pas d'études. Hein, ils mettent des produits en service, à la disposition de tout le monde, sans le dire déjà, et puis sans faire d'études. Voilà. Et puis, pour terminer, il me reste quelques minutes, une petite info sur l'indemnité kilométrique vélo qu'on avait parlé. Cette indemnité qui aurait dû marcher ne marche pas, puisque on a les chiffres aujourd'hui. Alors l'idée, hein, c'est des 25 centimes par kilomètre sont donnés à ceux qui vont au travail à vélo. Ça avait été testé avant de passer en mesure de loi dans certaines entreprises. Alors la somme était plus importante et il y avait eu un vrai effort et il y avait eu une vraie augmentation du nombre de salariés qui venaient à vélo à leur travail. Donc l'idée, c'était de généraliser avec une loi. Sauf que la loi qui est sortie et surtout le décret d'application était un truc tout pourri. Donc c'est plus obligatoire. Donc du coup, bah, personne ne l'a mis en œuvre quasiment. Et la somme est devenue ridicule, c'est devenu 25 centimes, ça devait être au moins le double pour être incitatif. Alors l'idée, soi-disant, de ce décret d'application pourri, c'est qu'il ne fallait pas que ça fasse concurrence aux transports en commun. Pourquoi c'est toujours mieux. Les transports en commun, comme une ville de Lyon, sont archi blindés. Ben, s'il y a des gens qui se reportent sur des transports doux comme le vélo, c'est tant mieux. Ça laisse un petit peu respirer les gens qui sont dans le métro et dans les bus. Donc, sur la France, le bilan de ces premiers mois de mise en place, ça fait faire presque un an d'ailleurs, c'est très très peu. 21 entreprises françaises, je ne sais pas combien il y a d'entreprises, mais des centaines de milliers. 21 entreprises, ça représente moins de 1000 salariés. Ont mis en place l'indemnité. Alors il y a un nouvel espoir, ça ne concerne que le public, que le privé je veux dire. Le public n'y a pas droit, la fonction publique n'y a pas droit. Mais il y a une expérimentation au ministère de l'Environnement qui expérimente pendant 2 ans auprès de ses 43 000 agents cette indemnité. Si ça marche dans le public, ils vont peut-être la généraliser à tout l'ensemble de la fonction publique. Et là, on aura peut-être des chances que ça marche un peu mieux, que les fonctionnaires donnent l'exemple. Voilà. En tout cas, c'est pas gagné, ça partait d'une bonne idée, cette indemnité kilométrique, et le PS a tout fait pour que ça ne marche pas. Et on peut constater qu'ils ont réussi, ça ne marche pas. C'est la fin de ce Canu Info, je voulais faire deux petits trucs dans l'agenda, puisqu'il nous reste une minute. Vendredi, demain, c'est la rentrée de la Plume Noire, la librairie sur les pentes de la Croix-Rousse, à 20h. Et samedi, il y a un débat à la Griffe, à 15h, les débats recommencent à la Griffe, hein, c'est le samedi à 15h. Alors c'est autour de la pensée de Martin Buber et Gustave Landauer, que je ne connais pas, mais ils sont issus du mouvement révolutionnaire qui voulait mettre en place le socialisme utopique, un mouvement révolutionnaire qui a débuté au début du 19e siècle et s'est poursuivi je crois jusqu'au début du 20e. Donc voilà, il y a un livre qui est sorti, une réédition d'un livre qui est sorti autour, voilà, du coup c'est l'occasion de parler de ces mouvements révolutionnaires du 19e et du début du 20e. Donc c'est à la librairie La Griffe dans le 7e rue Sébastien Griffe à 15h samedi.
Et ben on se retrouve nous la semaine prochaine, si tu veux bien.
Voilà, il est 19h59 pile à la pendule la plus rebelle des radios, ça y en est passé à 20h. On vous laisse en compagnie des bandes continues, on pensait que l'émission suivante serait de retour pour parler de la prison. Ben, ça sera peut-être la semaine prochaine ou alors ils arrivent dans quelques minutes. Reste à l'écoute de la plus rebelle des radios.
Ciao, ciao.
Bye, bye.